get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight.
Bienvenue dans un livre, un film, savez-vous que l'ONU a proclamé le 16 mai, Journée internationale du vivre ensemble en paix. Depuis plusieurs années, cette journée est célébrée à Aubenas. Elle le sera cette année le 15 mai, car c'est un mercredi, le jour des enfants. Pour nous préparer à cette journée du vivre ensemble en paix, j'ai décidé de consacrer un livre, un film, chaque mois, jusqu'à mai inclus, à un exercice particulier de la violence. Je commence donc par m'interroger sur la violence faite aux femmes. En effet, j'ai lu ce mois-ci pour un livre, un film, The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, paru en 1985. Le titre, qui signifie « L'histoire de la servante », a été stupidement traduit par « La servante écarlate » en français. Titre que nous ne comprenons qu'en lisant le livre et qui n'a d'intérêt que commercial. Margaret Atwood est une romancière et un poète née à Ottawa. C'est une féministe célèbre qui a le mérite de comprendre l'intérêt du féminisme, non pas seulement du point de vue des histoires individuelles de chacun et de chacune, mais comme entreprise culturelle globale qui doit tenir compte de siècles de machisme et de patriarcat, et ce, pour faire simplement avancer les droits universels des femmes. Droits qui, par exemple, pourraient déjà tout simplement être appliqués, voyez-vous, par exemple dans le salaire. Si les femmes sont si bien opprimées et exploitées pour Margaret Atwood, c'est que la culture les réduit à leur rôle de procréatrice à l'intérieur, alors que la faculté procréatrice de l'homme est considérée plutôt comme accessoire et son rôle tout extérieur. De ce fait, le plaisir féminin est suspect et le plaisir masculin plaisant. Son roman ici a pour vocation de rendre le phénomène inévitablement visible, car Margaret Atwood nous transporte dans une dystopie, c'est-à-dire un mauvais lieu, dans un futur proche, dans un pays certes rebaptisé, mais qui fait furieusement penser aux États-Unis d'Amérique, ou au Canada d'ailleurs. La société totalitaire décrite ici se présente comme une réponse à la société qui la précède. Et tout indique qu'elle est considérée maintenant comme tout à fait décadente. Décadence constitutive à une perte des valeurs morales, religieuses, dont la restauration stricte s'impose pour le pouvoir désormais en place. Cette décadence a produit la surconsommation, la confusion sexuelle, la pollution et naturellement la guerre. La pollution, entre autres, a provoqué de graves problèmes d'infertilité qu'il faut naturellement résoudre. Le plus rapidement possible en plus et le plus pragmatiquement, c'est-à-dire avec le moins possible de plaisir et si possible, mais c'est difficile, pas du tout. C'est difficile effectivement de supprimer tout plaisir et c'est peut-être lui qui viendra libérer nos personnages. Comme dans toutes les sociétés totalitaires, les individus sont réduits à l'unique fonction qui leur est assignée. Les femmes, notoirement non stériles, donc fécondes, hein, autrement dit fertiles, devront donc procréer, tout particulièrement à l'avantage de l'élite, qui entend bien, elle, évidemment, se reproduire. Les femmes ainsi dessinées seront des servantes écarlates, donc, car livrées à la procréation, elles sont ramenées au sang, dont elles portent la couleur vestimentaire. The Handmaid's Tale, ou La servante écarlate en français, est aussi, bien entendu, un film, et en l'occurrence, un film de Volker Schlöndorff, sorti en 1990, c'est-à-dire 5 ans après le livre. On y trouve Natasha Richardson, qui joue précisément le rôle de la servante écarlate, prénommée Kate, et renommée pour sa fonction Of Fred, ou De Fred en français, du nom du haut responsable politique auquel elle doit donner un enfant, sa légitime étant stérile. Faye Dunaway, qui joue Serena Joy dans le film, est cette épouse légitime un brin aigri. Et Aidan Keane joue Nick. Sans jeu de mots, un homme qui peut paraître normal. Et Elizabeth McGovern joue Moira, une amie de Kate, mais assez mal partie dans la société dans laquelle elle se trouve, ayant un certain penchant, elle, pour les plaisirs de la vie et les autres femmes. Évidemment, ça gêne la dictature. Victoria Tennant joue tante Lydia, les tantes étant les en quelque sorte des formatrices, des procréatrices, assez peu souples, je pense que vous l'aurez compris. Et enfin, Robert Duvall interprète le Commodore, c'est-à-dire l'officiel de haut rang, un peu officier supérieur, un peu ministre aussi. Le scénario de ce film, donc basé sur le roman de Margaret Atwood, le scénario est d'Harold Pinter, le célèbre dramaturge anglais né en 1930. De Volker Schlöndorff, et sans même tenter d'approcher l'exhaustivité, nous pouvons noter le grand nombre de ces adaptations de romans au cinéma. J'en ai isolé quelques-uns pour tenter de dégager chez lui quelque sorte une ligne de conduite, une habitude, une manière, mais aussi un goût, une culture. Dans l'ordre chronologique de ses réalisations, nous pouvons citer Le jeune Terless en 1966. C'est d'après le premier roman de Robert Musil, paru en 1906 et intitulé Les désarrois de l'élève Terless, en allemand dit Verwirrungen des Zöglings Terless. Robert Musil est par ailleurs l'auteur de L'homme sans qualité, un des romans les plus emblématiques de la première moitié du XXe siècle, où nous trouvons en quelque sorte le jeune Terless, dont je viens de parler, parvenu à l'âge adulte comme homme sans qualité. Volker Schlöndorff réalise ensuite Michael Kohlhaas en 1969, d'après l'œuvre homonyme de Kleist, parue en 1810. Ce sera ensuite Die verlorene Ehre der Katharina Blum, ou L'honneur perdu de Katharina Blum en 1975, d'après le roman homonyme de Heinrich Böll, paru en 1974 et sous-titré Comment peut naître la violence et où elle peut conduire. Viendra ensuite, si je puis dire, Le coup de grâce, ou Der Fangschuss, en 1976, d'après le roman homonyme de Marguerite Yourcenar, paru en 1939. Ce film sera suivi d'un autre, nettement plus connu, Le tambour, en 1979, d'après le roman homonyme publié par Günter Grass en 1959. Un amour de Swann viendra en 1984, d'après La recherche du temps perdu, bien sûr, de Marcel Proust, mais plus précisément homonyme de la seconde partie du premier volume de l'œuvre. Citons encore Le roi des aulnes en 1996, d'après le roman homonyme de Michel Tournier, paru lui en 1970. Ce qui frappe, c'est qu'à travers trois langues, le français, l'allemand et l'anglais, Volker Schlöndorff garde le titre du livre pour intituler le film, exception faite du livre de Musil, dont le titre est abrégé, Fidélité donc. Ce qui frappe surtout, c'est que les livres et les auteurs sont ce que nous pourrions appeler des classiques contemporains, exception faite de Kleist, qui appartient au premier romantisme allemand. Des classiques pour l'écriture, soit qu'ils aient une écriture classique, soit que leur écriture soit devenue classique, un peu les deux à la fois, d'ailleurs, étrangement. « il n'est pas difficile du tout de repérer à travers toutes ces œuvres littéraires de haut rang un objet constant. Cette préoccupation est celle de l'individu qui veut réussir sa vie le plus harmonieusement possible dans un contexte historique, économique et social, politique et moral, culturel et spirituel, parfaitement hostile à cette entreprise, ou au moins très défavorable. Le développement de l'individu devrait s'accomplir dans toutes les dimensions. Prendre en compte son corps, son esprit, tenir compte de ses particularités sociales, mais surtout respecter sa singularité irréductible. Nous parlons donc bien dans toutes ses œuvres littéraires, et donc dans la part la plus importante de l'œuvre de Volker Schlöndorff, d'un souci irrépressible de la personne et de son bonheur avec les autres. Quand Volker Schlöndorff choisit La servante écarlate de Margaret Atwood pour faire un film qui aura en français le même titre, Accrocheur, il accueille dans son panthéon des auteurs de très haute tenue et il l'accueille dans ce très bel ensemble d'auteurs qui sont devenus, chacun chez eux dans un premier temps, puis surtout dans le monde ensuite, des figures incontournables de la culture au sens le plus général du terme. Des auteurs donc et par suite des films qui veulent être des veilleurs, des gardiens en quelque sorte et même des thérapeutes de la culture pour que la culture soit bien le lieu de développement harmonieux de l'individu dans toutes ses dimensions. Il est absolument indispensable de comprendre que Volker Schlöndorff est comme Wim Wenders par exemple un enfant allemand de la guerre qui a dû se faire une place, mais bien plus une vie, après l'indicible horreur de la Seconde Guerre mondiale et avec un sentiment de culpabilité collective, peut-être même pas résolu aujourd'hui outre-Rhin, comme dans la France issue de la collaboration et de la dénonciation des Juifs. Margaret Atwood est de nouveau Volker Schlöndorff nous disent respectivement avec leurs livres et leurs films que notre culture est malade de ses exclusions violentes. Ils nous demandent de bien regarder ce que notre culture fait aux femmes, fait des femmes. Margaret Atwood est contemporaine d'un progressisme de gauche qui a envahi toute la culture intellectuelle de l'Occident, soi-disant pour le faire avancer cet Occident, le faire avancer vers plus de justice, mais ses pensées inspirées de Marx, de Freud et de Nietzsche n'ont pas été capables de faire beaucoup avancer la cause des femmes. Fallait-il d'ailleurs s'attendre à autre chose de la part de pensées inspirées par de tels mecs? C'est pas sûr. Du tout. Voilà, nous pouvons toujours, je parle d'autre chose en apparence, mais non, nous pouvons toujours associer à un entier naturel pair. Vous prenez n'importe quel entier naturel, vous le multipliez par deux et le tour est joué. Vous avez son entier naturel pair associé, son alter ego. Nous pouvons imaginer sur ce modèle une illustration qui, de ce point de vue seulement, tendrait à la perfection. À chaque élément du texte, par l'opération de l'imagination, correspondrait un élément de son illustration. Pour plus de facilité, nous pourrions souligner surtout les verbes et les adverbes, les substantifs et les adjectifs dans le texte, et chercher dans l'image les choses, les gens et leurs mouvements qui leur correspondent. La perfection illustrative correspondrait à une sorte de bijection entre l'ensemble de départ du texte et l'ensemble d'arrivée de l'image, de sorte que à chaque élément de l'un correspond un élément de l'autre et un seul. Le résultat serait qu'en voyant le film, nous reconnaîtrions en quelque sorte parfaitement le livre que nous avons lu et inversement, en lisant le livre, nous pourrions nous dire que nous l'avons déjà vu. C'est un peu cet effet que produisent la lecture de La servante écarlate et la vue du film La servante écarlate, respectivement, de Margaret Atwood et de Volker Schlöndorff. Je m'amusais dernièrement avec les fables de La Fontaine, illustrées par Granville, dans la première moitié du 19e siècle. Je vois bien à gauche, en noir et blanc, de la gravure, le cerf et la vigne. Et même en arrière-plan, les chasseurs qui auront raison de lui. Mais je lis en plus à droite dans la fable que le cerf ingrat a, pour son grand malheur, mangé la vigne qui le cachait. Je vois dans le dessin la parade de l'âne portant des reliques, mais je ne lis rien dans le texte sur un personnage royal et une sorte d'évêque qui plastronne au bord du chemin. Je vois bien un homme qui confie quelque chose à l'oreille de son camarade et déjà loin derrière eux, un ours qui s'en va. Ces détails sont dans le texte de la fable, en effet, et bien rendu par le graveur. Mais le texte ne me dit rien de cette histoire qui montre qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est un jeu que j'aime bien d'ailleurs, celui des 7 différences où nous comparons toutefois deux images comme nous pourrions comparer deux textes. Ici, je vous propose de comparer un texte et un film, La Servante écarlate de Margaret Atwood et le film de Volker Schlöndorff, La Servante écarlate, paru l'un en 1985, l'autre en 1990, et tous trouvables un peu partout. Un livre, un film, c'est fini pour ce mois-ci. Je vous laisse à vos lectures et à vos spectacles. Ciao, ciao.
We get it almost every night when there are moon.